Phil PM. La voix est libre.
Oh, sur Facebook Live, en compagnie de Monsieur Luc Lavoie.
Bonjour, Monsieur Drainville.
La voix est libre.
La voix est libre.
Oui, elle est libre de dire ce qu'elle pense, cette voix.
Et ce qu'elle pense, c'est que Trump est sur le point de changer la conversation politique. Ce qui se passe au Venezuela, on en a déjà parlé, toi et moi. Toi,
oui.
T'as toujours dit Trump, il va se trouver une guerre avant, oui, de s'en aller en élection.
Oui, et j'ai dit que le Venezuela est un candidat sérieux.
Alors voilà, depuis environ un mois et demi, deux mois, il y avait des troubles, des manifestations de plus en plus grandes, des tentatives d'assassinat. Un classique, quoi, pour ceux qui sont assez vieux, qui se rappellent de 1973 au Chili, exactement la même chose, probablement des agitateurs financés par les Américains qui ont décidé de renverser le régime de Maduro.
Moi, pour être allé au Venezuela, là,
oui,
je peux te dire une affaire. Je nie pas que les services de renseignement américains puissent jouer un rôle, mais je vais dire franchement, Luc, là, la misère là-bas là, est tellement immense maintenant là, que les Vénézuéliens n'ont pas besoin des Américains pour manifester contre le régime.
Oui, mais ils ont besoin des Américains pour être armés, ils ont besoin des Américains pour avoir du support, ils ont besoin des Américains pour des télécommunications.
Tu penses que l'opposition politique,
oui,
à Maduro, qui est un socialiste, là,
qui est le successeur de Hugo Chavez,
qui était très
admiré par Québec solidaire.
Que j'ai interviewé, Chavez. Tu sais que j'ai passé,
ah oui?
J'ai passé une journée complète avec lui, dans son camion, faisant campagne.
Quand il était président ou quand,
ouais, quand il était président? Oui, quand il était président et candidat à sa réélection.
Ah bon,
j'ai passé une semaine là-bas et j'ai fini par l'interviewer. D'ailleurs, je pense que ça se trouve encore sur les réseaux sociaux. Mais tout ça pour te dire que Chavez, à ce moment-là, était très populaire. Maduro, qui a pris sa succession, lui a tout foutu en l'air. Bon, il faut dire que
Chavez avait pas mal fait le travail au départ.
Ben, Chavez avait commencé à installer un régime autoritaire, mais les prix du pétrole étaient tellement hauts qu'il y avait de l'argent à dépenser en veux-tu, en v'là.
Oui.
Quand les cours pétroliers ont planté, le Venezuela s'est retrouvé dans le chenoute. Et là, Maduro...
Oh, bon, il y a un problème de famine, il y a un problème...
Ah!
De, c'est affreux ce qui
C'est épouvantable ce qui se passe là.
Oui.
Et toi, tu dis donc, pour en revenir à ton point, tu dis que... Ou en tout cas, tu n'exclus pas que l'opposition politique à Maduro soit financée et organisée par les Américains?
Ben, certainement sous-main et certainement ils sont là comme agitateurs. Ils en ont fait leur façon d'agir pendant des années. Ils l'ont fait en République dominicaine, fait au Chili,
au Guatemala,
ils l'ont fait en Iran,
au Nicaragua.
Ils l'ont fait un peu partout. Alors, m'apparaît évident, mais là, la différence, c'est qu'ici, on n'est pas en République dominicaine. On est au Venezuela, une population de plus de 30 millions d'habitants, des réserves pétrolières considérées certifiées comme étant les plus grandes au monde, 297 milliards de dollars US. C'est à la porte des États-Unis. On en revient presque à la vieille doctrine Monroe.
Ben oui.
La doctrine Monroe étant essentiellement du nom du président Monroe, ça signifiait que ce qui est dans ma cour arrière, c'est-à-dire l'Amérique latine, ça me regarde et c'est moi qui mène.
Et voilà.
Et alors là, on était pas mal loin de ça. Depuis le Chili, je me souviens pas d'avoir vécu des événements comme ça.
Je dirais depuis le Nicaragua.
Le Nicaragua.
Reagan avait ramené ça.
Oui, au Nicaragua.
En finançant les Contras, là, contre le régime sandiniste d'Ortega, qui est à nouveau, soit dit en passant, président du Nicaragua, et qui lui aussi a installé un système passablement autoritaire au Nicaragua.
Et corrompu jusqu'à là.
Et corrompu. Voilà.
Alors là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'une manifestation a fini par mener au fait que l'ancien président de l'Assemblée nationale ou législative du Venezuela, que Maduro avait aboli. Le dictateur Maduro avait dit qu'il n'y a plus d'Assemblée législative.
Le président a aboli le Parlement au Venezuela.
Oui, c'est ça.
Hein?
C'est ça. Bon. Alors, le président de ce Parlement aboli, un nommé Juan Guaido, qui est un jeune homme de 35 ans, s'est autoproclamé président de la République aujourd'hui. Et le président Trump est sorti sur la place publique pour dire qu'il reconnaissait la légitimité de Guaido comme président du pays et que les États-Unis seraient de son côté pour s'assurer que l'ordre reviendrait. Moi, j'y vois un langage que j'ai vu trop souvent, d'abord pour l'avoir vécu, parce que je suis assez vieux pour ça, comme toi d'ailleurs, et aussi parce que j'aime beaucoup lire, et c'est un classique de la façon américaine de faire. On pensait que c'était des choses du passé, mais c'est certainement plus le cas. Le Venezuela dérangeait les Américains, entre autres, parce que dans leur misère noire, ils étaient prêts à faire des concessions à n'importe qui. Ils recevaient des officiels de haut rang du gouvernement chinois.
Et de la Russie.
Et de la Russie.
Ils ont reçu, d'ailleurs, je pense, de l'armement de la Russie, si je ne me trompe pas.
Alors, c'était pour eux...
Proche de Cuba. Ne l'oublions pas, très proche de Cuba.
Surtout sous Hugo Chavez. Surtout, encore aujourd'hui. Alors, l'épine dans le pied, les Américains, je pense qu'ils viennent de décider de s'en débarrasser. Alors, il y a eu des tentatives d'assassinat contre Maduro. Je ne sais pas si tu te souviens,
oui,
on a
un
défi des militaires juste avant Noël.
Au drone, là.
Oui.
Alors, toi, ce que tu dis, là, dans le fond, c'est Trump en disant... C'est pas Maduro le vrai président, mais c'est le président du Parlement.
Oui.
Il vient, dans le fond, de créer les conditions pour que ce président du Parlement là dise, d'abord, en appel à la loyauté d'une partie de l'armée vénézuélienne, qui est très importante. Donc, on pourrait se retrouver éventuellement avec un conflit à l'intérieur même du Venezuela entre l'armée fidèle
à
Maduro et une partie de l'armée qui pourrait se rallier au président de l'Assemblée nationale.
Alors, un soulèvement militaire, une sorte de guerre civile,
et là,
boum, l'intervention américaine.
Voilà, les Américains qui choisissent le camp.
Parce que les gens oublient que les Marines, le corps d'attaque des Américains, la force d'élite d'attaque des Américains, le Marine Corps, a été créé justement pour régler le cas dans les Caraïbes, en République dominicaine. Ils ont été créés pour ça, faire des débarquements, des interventions. On se souvient, sous Reagan, ils l'ont fait à l'île de la Grenade.
Rappelles-toi de Panama.
Panama aussi, Bush.
Oui. Je pense que c'est le dernier, d'ailleurs, ça.
Ouais.
Tout à l'heure, on se demandait, je pense que le Panama, quand ils ont fait sauter Noriega.
Noriega, effectivement.
Hein, le qui était accusé de narcotrafic, là.
Oui, et qui était autrefois un agent de la CIA. Mais enfin, il ne faut jamais essayer d'associer la morale à ça. Mais ce qu'on a devant nous, c'est un coup d'État, coup d'État appuyé par les Américains.
Et là, Luc, j'ai un auditeur qui m'écrit, Trudeau est sur le point aussi
de reconnaître,
et j'ai vu passer ça, c'est une dépêche de Radio-Canada qui dit que le Canada pourrait décider, lui aussi, de reconnaître le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne comme le vrai président du pays plutôt que Maduro.
Donc, c'est bien organisé. Donc, Américains ont pris leur contact diplomatique.
Je suis en train de me poser la question.
J'ai hâte de voir si l'Union européenne va se ranger du bon côté. Les pays souverains de l'Europe vont faire quoi? Mais il y a tout ce qu'il faut ici pour que Trump ait sa guerre. T'sais, toi, Bernard, tu as toujours défendu cette idée-là. Mmh. Trump, quand ça va mal pour lui, il trouve quelque chose d'autre.
Oui.
Là, il a besoin de quelque chose d'autre parce que son shutdown du Parlement, pas du Parlement, mais du gouvernement américain, est en train de tourner au vinaigre.
T'as vu ça?
Est en train de tourner contre lui.
T'as vu qu'il a annoncé qu'il allait prononcer le discours sur l'État de l'Union. Il allait se présenter à la Chambre des représentants qui veulent l'inviter ou pas. Et il a essentiellement dit, s'ils veulent pas me laisser rentrer, je vais rentrer moi-même.
Oui, c'est ça qu'il a dit, effectivement.
C'est débile,
c'est complètement fou, hein, parce que Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants, n'a pas envoyé... En fait, elle a envoyé une lettre pour lui dire, cette année, on pense que c'est pas une bonne date. On pense que pour des raisons de sécurité c'est un jeu politique, on le comprend. Mais qui décide, lui, je vais m'amener là, de toute façon, pour essayer de m'empêcher de rentrer pour voir... Vraiment.
T'imagines? Le sergent d'armes de la Chambre des représentants qui se met devant la porte puis qui dit au président, tu peux pas rentrer parce que moi, je reçois mes ordres de la présidente de la Chambre des représentants. Parce que tu te rappelles comment ça fonctionne, hein? Il est appelé à en rentrer.
Oui, absolument.
Mr. Speaker.
Oui.
The President of the United States. Et là, il laisse rentrer.
Voilà.
Alors, Madame Speaker, the President. Mais là, il n'y en aura pas de Madame Speaker parce qu'il veut... Enfin, pour le moment.
Mais là, écoute, en 24 heures, les choses peuvent changer rapidement. Imaginons que ça tourne très mal au Venezuela, ce qui est à prévoir. Et là, tout à coup, boum, un débarquement des Marines
Il a la légitimité constitutionnelle d'ordonner un débarquement.
Oui,
lui,
il a trois mois devant lui pour faire
commandant
ce qu'il
veut. En chef, le président.
Alors, si une telle chose se produit, je vais te dire que le shutdown, il va tomber bas. Là.
On s'entend.
Ça va, parce qu'en plus, je le répète, là, on n'est pas devant la Grenade ici au Panama. C'est un pays de plus de 30 millions d'habitants.
C'est un immense pays.
C'est un immense pays aux richesses pétrolières parmi les plus grandes au monde. On dit même sur le plan de la certification les plus grandes au monde, mais aussi beaucoup d'autres ressources naturelles. Un pays que les Chinois voulaient...
Parce
qu'ils ont besoin de ça, eux autres, d'énergie puis de ressources naturelles pour faire marcher leurs machines. Mm-hmm. Alors, on regarde la situation évoluer.
D'ailleurs, il y a des images présentement là, sur tous les grands réseaux. Là, c'est en train de se dégrader. Donc, on pourrait se retrouver dans un conflit militaire d'envergure. Parce que moi, j'y suis allé, je te l'ai dit.
Il y a un aspect régional à ça. N'oublie pas que le voisin, c'est la Colombie.
Absolument.
Puis la Colombie, c'est un régime qui vacille un peu, même s'ils ont réussi à mettre fin à la guerre, à la guerre avec les FARC.
Oui, mais il y a eu, la semaine passée ou la semaine d'avant, un gros attentat à Bogota.
Absolument.
Hein, par la guérilla. On pense que c'est la guérilla, la petite guérilla qui n'a toujours pas signé d'accord de paix avec le gouvernement. En tout cas, à suivre très attentivement dans les prochaines heures. Qu'est-ce qui va se passer avec le Venezuela?
Et où va se situer le Canada? C'est drôlement intéressant.
Absolument. Alors, on va s'arrêter parce qu'au retour, ça c'était ta mauvaise nouvelle. Au retour, tu vas nous parler de ta bonne nouvelle du jour,
plaisir.
Luc Lavoie.
Drainville PM. La voie est libre.
Actuellement, notre position, elle est très claire. La loi existe et elle est là pour rester. Le registre est là pour rester. Ce qu'on veut, c'est susciter davantage d'adhésion pour le rendre plus efficace. Donc, c'est exactement le sens de l'annonce d'aujourd'hui. On veut qu'un maximum de gens s'inscrivent au registre. Et pour ce faire, on veut simplifier la vie des gens qui détiennent les armes pour qu'ils s'inscrivent au registre.
C'était Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, qui annonçait aujourd'hui donc des assouplissements au registre. Juste avant de laisser la parole à Luc, j'en profite pour lancer un petit appel aux chasseurs et chasseuses qui nous écoutent. Si vous avez le goût de nous dire comment vous réagissez à cette décision du gouvernement de la CAQ aujourd'hui, 790-9850 ou encore 98985 par texto, Drainville à commercial 985fm.ca. Alors Luc, toi, tu penses que l'annonce d'aujourd'hui, c'est un bon coup?
C'est un bon coup dans la mesure où, et ça me rappelle le travail que fait à l'heure actuelle Sonia Lebel avec Véronique Yvon et enfin les quatre parties qui sont représentées dans le cas des crimes pour agression sexuelle. Il y a dans cela aujourd'hui, quand Mme Guilbeault s'est présentée pour annoncer trois assouplissements qui, au fond, sont une façon d'éliminer des irritants de la loi. C'est assez technique, là, je ne veux pas aller dans les détails, mais les gens qui s'y connaissent vont se reconnaître.
Ben, c'est facile, hein? Longueur du canon qui ne sera plus nécessaire. Un seul numéro d'enregistrement au lieu de deux, ils vont prendre...
Puis 30 jours au lieu de 15 pour déplacer les armes.
C'est ça.
Mais surtout, moi, ce qui... En tout cas, je ne sais pas si combien de temps le gouvernement Legault va réussir à agir ainsi, mais je suis convaincu que la population adore ça. Quand elle a fait son annonce, il y avait la coordonnatrice de police, se souvient.
Ben oui. Hein?
Donc, les victimes de l'incident de la police, pas l'incident, mais le crime de la Polytechnique. Xavier aussi, le président de la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec, Cossette, qui a dit, Alain Cossette, qui a dit... on n'est toujours pas d'accord avec le registre, mais on reconnaît que la loi a été adoptée.
C'est ça.
Puis on ne lance pas d'appel à désobéissance
civile. Non, on lance un appel même à aller vous inscrire. Allez vous inscrire.
Alors, Martin Prudhomme, le directeur de la Sûreté du Québec, qui est venu dire à quel point cette loi-là pouvait être utile pour les policiers. Alors moi, je trouve que cette façon de faire que le gouvernement semble mettre de l'avant... les serre extraordinairement bien. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, parce que ça ne tiendra pas éternellement.
Non,
qu'un jour, les partis d'opposition vont se réveiller et ils vont dire, écoute, on est devenus des faire-valoir pour le gouvernement.
Mais ici,
ce ne sont pas les partis d'opposition, ce sont les parties prenantes.
Oui.
Et les parties prenantes sont là pour, contre, d'un point de vue ou de l'autre. La Fédération de chasse et pêche, écoute, ils étaient... très, très opposé à cette loi.
Ils le disent encore. On les avait tous les deux, Rajent et Cossette, on les avait tous les deux à l'émission un peu plus tôt. Toi, tu étais en onde à Québec à ce moment-là. Et ils sont toujours contre les chasseurs, mais ils disent, garde, c'est quand même un pas dans la bonne direction. On est toujours contre, mais c'est un pas dans la bonne direction. Puis on souhaite encore l'abolition, mais il existe, puis on veut que les chasseurs aillent s'enregistrer.
Et surtout, faire dire à ces gens-là, écoutez, c'est la loi, puis elle doit être respectée. C'est un coup de maître de la part du gouvernement.
Je suis d'accord avec toi. On va aller rejoindre Marc, qui nous appelle. Comment vous réagissez à cette annonce, Marc?
Ben moi, j'apprécie le fait qu'il y ait fait des assouplissements, ça c'est sûr et certain, là, parce que j'ai fait mon enregistrement. Okay? Je suis contre le registre, mais... Faut se plier à la loi, veut pas. Moi, c'est simplement que ça m'a pris 2h30 pour enregistrer 7 armes. Puis j'ai quand même assez redette, là.
Ouais.
OK? Ouais. J'ai joué avec la longueur des canons, puis c'est ça. J'ai pris mes mesures avant, tout le restant. Mais moi, c'est pas ça que je déplace. C'est simplement la grosse perte d'argent sans faire pareil comme ça fait avec le registre canadien.
Oui, vous pensez que ça va être un... Ça, c'est un des principaux arguments. Merci, Marc, pour l'appel. Un des principaux arguments des opposants.
C'est que ça a coûté 1 milliard à Ottawa.
Même certains disent plus 2 que 1.
J'ai jamais compris comment, d'ailleurs.
Moi non plus. C'est Julie, dit-on? Oui, Julie. Julien. Bonjour, Julien.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je vous écoute.
Donc, moi, je trouve que les assouplissements qui ont été annoncés aujourd'hui vont absolument rien changer pour les gens qui étaient déjà contre ou pas en grosse majorité. Mm-hmm. Moi, personnellement, j'ai pas enregistré mes armes non restreintes en ce moment et je ne crois pas le faire même après la date.
Alors, vous réalisez que vous allez être en contravention avec la loi et passible d'amende si jamais vous ne faites pas?
Absolument, mais je suis quelqu'un de principe, puis je crois que le registre provincial qui est obligatoire et
inutile, c'est ça?
Ouais, inutile, puis je trouve que on apporte beaucoup d'arguments qui sont contredits par des faits, exemple les policiers qui sont en faveur du registre.
Okay. Ben,
tu sais, c'est les chefs de police, ouais. La police politique qui sont nommés par le politique.
OK, Julien, vont merci. Prendre... merci pour l'appel. J'ai bien compris votre argument, là, mais là, quand je suis rendu dans la police politique...
Oui, on n'est pas, pas là du tout.
Puis d'ailleurs, le directeur général de la Sûreté du Québec, Prud'homme, était là pour dire « c'est encore utile pour nous, les policiers,
voilà.
Ce registre-là ». Alors, j'ai beaucoup de textos, là. Il y en a un qui me dit « moi, je suis 100% pour le registre ». Il y en a un autre qui dit « c'est la loi, mais c'est de lancer de l'argent par les fenêtres ». C'est Pierre-Alexandre qui me dit ça. Y en a un qui dit « Nous sommes plusieurs chasseurs dans la famille. On ne voulait pas s'enregistrer, mais on le fait pour éviter les amendes. » Il dit « Je l'ai fait lundi, je suis en loi maintenant, me dit-il. » Il y en a un autre qui me dit « Jamais je vais enregistrer mes armes, un peu comme Julien vient de nous le dire. » Il y en a un autre qui dit « bien content de ne pas avoir à mettre le numéro de l'enregistrement oui. sur ma carabine. » Parce qu'il faut se rappeler... selon la loi actuelle, le numéro qui sort...
devait quand être tu, gravé quand tu sur le...
Ouais, gravé. Moi, ce qu'on me disait au cabinet de Guilbeault, c'est une étiquette, là, un autocollant aurait pu faire. Ils ne ouais. demandaient pas, mais je pense qu'ils vont ajuster ça aussi
ils vont
dans les changements
ça,
ouais. au règlement. Voilà. On a un autre appel? Jean-François, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Je vous écoute, là.
Oui, bonjour. Moi, je me suis conformé. Moi, je forme au moins 300 chasseurs par année, donc je suis moniteur pour les cours. On s'est conformé, mais c'est sûr que ma position, moi, je suis toujours contre. C'est sûr qu'on ne peut pas encourager la désobéissance civile.
C'est ça.
Mais malheureusement, ma position, je reste contre. Donc, je vais aller chasser dans une autre province puis donner mes sous dans une autre province.
Ah oui, ça va aller jusque ça?
Oh oui.
Ben là, Jean-François, à un moment donné, les beaux orignaux, les beaux chevreux, les belles outardes, les beaux
canards. Les perdrix.
Les beaux canards noirs, ils vont te ramener au Québec.
Au Québec, là, ouais. La retombée là, pour la chasse, c'est 1,6 milliard. Quand tu craches dans la main des gens comme ça, même année, il faut que tu payes.
Bon, OK. Ben merci pour l'appel.
En tout cas, moi, j'aime entendre des gens qui disent « je ne suis pas pour la désobéissance civile ». La désobéissance civile, ça a été utilisé souvent dans l'histoire. Mais il y a un prix à payer pour ça. Nous sommes une société de droit. Mmh. Quand les débats ont lieu et qu'il y a un vote qui est pris par... c'est une démocratie représentative par nos représentants, il faut se conformer à la loi.
Même si on est en désaccord.
On a le droit de le faire valoir qu'on est en désaccord,
ben oui.
mais on doit respecter la loi. Ben Je pense que ceci est incontournable.
Luc Lavoie.
Merci, Bernard.
On est d'accord.
On est complètement d'accord.
Ça, écoute, c'est inquiétant.
Moi, je commence à être pas mal inquiet. Je suis en train de fouiller, Bernard. Hein? Je vais emmener quelques bébelles sur la table. Je sens qu'on va se prendre aux cheveux.
C'est ça. Amène des gugus. Amène-les tes gugus. Amène-les tes gugus.
Tu vas voir qu'on va du fun. Dis à la claque.
À demain.
Bye.